Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Certains les prennent pour des fous furieux, d'autres se disent qu'ils ne sont que des doux rêveurs, mais parmi les plus jeunes d'entre nous, ils font de plus en plus d'adeptes. Ils se sont les défenseurs de la cause animale et notamment ces associations qui dénoncent la maltraitance animale. En tête, une association qui fait de plus en plus parler d'elle, L214, leur dernière campagne dénonce le sort réservé aux canards sélectionnés et gavés pour faire du foie gras, de quoi se faire quelques ennemis dans notre sud-ouest. Et si la pensée de l'Église n'était pas si éloignée de ces considérations et si à l'école d'un saint François d'Assise, notre regard sur les animaux pouvait évoluer et avec nos comportements. Ce matin, attention, émission coup de poing. Voilà, maltraitance animale, importance et limite, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Allez, on va commencer par ceux qui sont présents parce que on a quelques déboires. Brigitte Gauthière, vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214. Bonjour. François Finet, vous êtes franciscain et co-auteur de La singularité animale, civiliser notre rapport aux animaux, paru aux éditions Vie. Bonjour. Voilà, parlez bien devant le micro. Benoît Calmel, vous êtes ingénieur et co-auteur du même ouvrage, rappelle son titre, La singularité humaine, civiliser notre rapport aux animaux, paru aux éditions Vie. Bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindra peut-être, on l'espère, Mauricio Garcia Pereira, qui est un ancien employé d'un abattoir et qui est auteur d'un ouvrage, Ma vie toute crue, paru aux éditions Plomb. Mais à défaut de l'avoir au téléphone, on va se lancer avec vous, Brigitte Gauthière, pour parler de L214 et de ses multiples actions. Commençons par votre dernière campagne. La dernière campagne que vous avez donc lancée cible l'élevage de canards en Dordogne. Alors on est passé juste à côté, nous dans notre région Midi-Pyrénées. Vous êtes allé dans un lycée agricole, le lycée agricole de Périgueux, qui a reçu plusieurs médailles au concours général agricole, médaille d'or en 2019. Dites-nous ce que vous avez vu et ce que vous donnez à voir.
Eh ben, dans cette vidéo qu'on a obtenue grâce à un lanceur d'alerte, en fait, on peut voir à peu près toutes les étapes, en tout cas les étapes clés, de la vie des canards dans la production de foie gras, c'est-à-dire aussi bien le couvoir. Lorsque les canetons naissent, donc dans des immenses caisses à incubation, là, ils naissent, ils sont triés, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, et en fait les femelles, et puis aussi les quelques mâles qui sont indésirables ou ceux qui sont pas éclos tout à fait comme il faut, en fait sont jetés vivants à la poubelle, puisque dans la production de foie gras, de canard en tout cas, ils ne gardent que les mâles, puisque le foie des femelles est un peu plus petit et est beaucoup plus veineux. Donc il est indésirable dans la production.
Ils les jettent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Moi, je l'ai vu, ces donc images, mais je voudrais que vous les décriviez.
Donc on voit déjà on voit le tri, c'est-à-dire sur une espèce de carrousel, les canards sont pris les uns avec les autres et sont triés. En fait, une tache de couleur permet de les distinguer, une tache de couleur sur la tête permet de les distinguer. D'un côté les mâles, de l'autre les femelles. Et ensuite, on a les images d'immenses poubelles, ces grandes poubelles que vous trouvez en ville, là, qui font peut-être un mètre cinquante de large, très profonde, et dans laquelle vous avez des milliers de canetons encore vivants qui piaillent et qui sont en train littéralement de mourir de faim ou alors de mourir étouffés sous le poids des autres, puisque vous en avez un quart de poubelle remplie au moment où les images sont prises. Donc ça, c'est une première étape. C'est une infraction à la réglementation, très clairement, puisque la méthode qui devrait être employée n'est guère plus réjouissante pour ces canetons femelles et ces canards indésirables, puisqu'ils auraient dû être soit gazés, soit broyés.
Alors,
de toute façon, voilà, c'est 16 millions de canetons chaque année, comme ça, qui terminent à la poubelle parce qu'ils sont indésirables dans la production de foie gras.
16 millions, c'est en France, on est d'accord, hein?
On est en France, absolument.
Alors Brigitte Gauthier, juste tout de suite, je vous pose les questions qui nous viennent à l'esprit quand on voit ça. Parfois, quand on voit ces vidéos, on se dit oui, mais ils sont allés, ils sont malins, ils sont allés juste dans l'élevage justement où ça se passe pas bien. Comment vous arrivez au long de vos campagnes quand vous dénoncez différentes situations de maltraitance à étayer votre propos et à laisser entendre que ce que vous montrez c'est une généralité et là en l'occurrence pour la production de foie gras et donc cette sélection des mâles et des femelles.
Alors cette sélection des mâles et des femelles, oui, c'est une généralité dans la production de foie gras et c'est même noté dans certains cahiers des charges. Ils ne gavent que les mâles. En fait, la production de foie gras, c'est industrialisé, rationalisé, un peu comme toutes les productions. Et ils ont développé, les zootechniciens ont développé une race de canards qui est un croisement entre une canne pékin et un canard de Barbarie. Donc on a des canards mulards qui sont des canards hybrides, stériles, qui ne savent même pas voler, mais qui ont été optimisés pour produire un foie gras. C'est-à-dire ils ont été optimisés dans le sens où ils n'arrivent pas à réguler le circuit des graisses dans leur foie et très très rapidement en fait ils développent la stéatose hépatique qui fait que leur poids va prendre 10 fois sa taille normale. Et donc c'est ce qu'on recherche hein, avec le foie gras, c'est-à-dire à faire littéralement décupler la taille de ce foie de façon à pouvoir le consommer derrière. Mais... Et ça c'est dans tous les ouvrages professionnels, c'est dans tous les ouvrages scientifiques, notamment le rapport scientifique européen de 1998, donc des experts européens ont rendu un rapport auprès de la Commission européenne qui est accablant pour la filière foie gras sur toutes les étapes finalement, enfin sur en tout cas les deux majeures, celle de celle du sexage et celle du gavage quoi.
Puisque vous en parlez, donc on peut dire qu'il y a des pays qui ont interdit hein, le gavage, c'est le cas de la Pologne et de l'Italie, on peut trouver ça sur votre site internet, mais je vous repose ma question quand on vous les images que vous décrivez, comment vous pouvez affirmer que ce que vous montrez, en fait, c'est généralisé dans la production de foie gras, en fait. C'est quoi? Vous avez des caméras partout? Comment vous pouvez être aussi affirmatif?
Malheureusement, non. Il n'y a pas des caméras partout. Il n'y a pas des lanceurs d'alerte partout. Nous, on ne dit pas que c'est général que les couvoirs jettent à la poubelle simplement les canetons. À vrai dire, on s'attendait à voir soit une broyeuse, soit une gazeuse, de façon à, entre guillemets, éliminer les femelles. Donc ça a plutôt été un peu, pas la surprise quand on a vu les images, puisque le lanceur d'alerte nous avait dit que effectivement ça se passait de cette façon, et c'est pour ça qu'il avait été extrêmement choqué de ce qu'il avait pu voir. Par contre, l'élimination des femelles, ça oui, c'est généralisé, c'est documenté dans les ouvrages professionnels et dans les ouvrages scientifiques. Il y a absolument pas de débat là-dessus d'ailleurs. Sur cette question-là. Ensuite, ici, on est quand même dans le haut du panier. On est dans un établissement qui est médaille d'or du concours général agricole 2019. On est dans une école. On est dans un élevage qui a l'IGP canard à foie gras du Périgord. Il est aussi d'origine certifiée Périgord. Enfin, on est quand même sur un établissement qui a été primé, qui est reconnu parmi ses pairs comme étant le haut du panier, quoi.
Comme étant un modèle. Brigitte Gauthier, j'aimerais que vous nous parliez, puisque on n'arrive pas à joindre Mauricio Garcia Pereira. Donc, je rappelle qu'il est un ancien employé d'un abattoir. Il a travaillé pendant 7 ans dans les abattoirs de Limoges. Il est l'auteur d'un livre.
Et c'était notre lanceur d'alerte pour l'abattoir de Limoges. C'est grâce à lui qu'on a pu obtenir une partie des images.
J'ai vu les interviews aussi que vous avez données. Auteur de Ma vie toute crue, par aux éditions Plomb. Est-ce que vous pouvez lever un coin du voile de ce qui se vit dans les abattoirs que décrivait dans son ouvrage Mauricio Garcia Pereira? Et là aussi, est-ce que c'est une généralité? Ce qu'il décrivait, pour commencer.
Alors, ce qu'il décrivait, lui, ce qui l'a beaucoup choqué, c'est l'abattage des vaches gestantes. C'est ces vaches qui attendent des petits, en fait, qui arrivent à l'abattoir alors qu'elles sont, comme on dit pour les animaux, qu'elles sont pleines. Et lui était au tri des viscères. Et en fait, il s'est rendu compte, quand on l'a mis à ce poste, qu'il recevait des poches, en fait, les utérus, et qu'à l'intérieur de ces utérus, il y avait des veaux, entre des tout petits veaux, à peine formés et des veaux complètement formés, prêts à naître. Et donc, ça l'a beaucoup choqué. Et quand on a commencé, nous, à sortir notre série d'enquêtes sur les abattoirs, il m'a contacté. il m'a téléphoné en me disant, mais ce que vous avez montré jusqu'ici, enfin, moi, j'ai pire. Moi, j'ai pire et j'aimerais que ça se sache. Et donc, bah, nous sommes allés le rencontrer, Sébastien et moi, voilà, c'est, ça a démarré comme ça. Il a réussi à filmer sur son lieu de travail.
Alors, les
opérations qu'on lui demandait de faire.
En dehors de ce cas, donc des vaches qui sont en gestation, comment les animaux sont tués dans les abattoirs? Qu'est-ce qui normalement devrait être fait et quelles sont les dérives qu'on peut observer ou que ce monsieur avait observé?
Alors, dans les abattoirs, théoriquement, ils ont interdiction de tuer les vaches gestantes au-delà de de les transporter déjà au-delà de 90% de leur période de gestation. Or, là, dans les cadavres qu'avait à gérer Mauricio, il y avait des veaux qui étaient quasiment prêts à naître, donc on était déjà au-delà. Après, dans les abattoirs, vous avez à peu près 4 techniques de mise à mort. Des mises à mort par étourdissement, soit par pistolet à tige perforante, soit par courant électrique qu'on fait passer à l'intérieur du cerveau, soit par gazage.
La question qu'on se pose tout de suite pour ces trois techniques que vous venez de décrire, peut-être que vous pouvez les repréciser, c'est que si on se demande en fait si l'animal est tué sur le coup et du coup s'il souffre.
Oui. D'accord. Alors en fait non, l'animal n'est pas tué sur le coup. Donc vous avez des méthodes d'abattage avec étourdissement, celles que je viens de décrire, et des abattages sans étourdissement, notamment pour les rites religieux à la lécachère. L'animal, en fait, même par étourdissement, il n'est pas tué. Parce que dans l'industrie de la viande, on a besoin que le cœur batte encore pour évacuer le sang le plus rapidement possible du corps de l'animal. Donc en fait, c'est vraiment un étourdissement. Alors c'est pas ouh là là, je suis pompette, voilà, c'est un étourdissement brutal, hein, un coup dans le crâne. En fait, ça vient détruire une partie du cerveau quand vous êtes par pistolet à tige perforante. Ensuite, vous avez l'électronarcose, là c'est un courant électrique qui passe et on dit que c'est un étourdissement qui est réversible, qui est d'ailleurs utilisé parfois dans le cadre d'abattage halal. Et puis vous avez le gaz, c'est ces images qu'on a montrées à Alès et à Oudan, où vous voyez ces nacelles avec des cochons qui descendent au fond d'un trou dans lequel il y a une forte concentration de dioxyde de carbone, et vous les voyez s'asphyxier en se jetant de tous les côtés pour essayer d'échapper à la mort. Enfin, le gaz est aversif pour eux, en plus ça leur brûle la trachée, etc. Et voilà, donc c'est des techniques qui, quand elles sont bien réalisées, c'est-à-dire notamment pour le pistolet à tige perforante et éventuellement l'électronarcose, ça peut aller plus ou moins rapidement, mais vous n'avez pas empêché la terreur avant, parce que les animaux sentent qu'il se passe de toute façon quelque chose de complètement inhabituel. Il y a des animaux qui se réveillent, qui meuglent désespérément ou qui poussent des cris désespérés. Et donc, il y a un énorme stress à l'intérieur de l'abattoir. Vous voyez des animaux qui cherchent à fuir, qui cherchent à s'échapper. Donc, c'est une épreuve pour ces animaux. Et puis, vous avez les animaux qui sont tués sans aucun étourdissement. Et là, non seulement ils sont retournés, notamment pour les bovins, ils sont mis dans un tonneau rotatif. Le tonneau est retourné, donc dans une position que les animaux ne prennent jamais spontanément. On voit leurs yeux exorbités, se poser la question de ce qui se passe. Et puis ils sont égorgés en pleine conscience. Donc là, ils se sentent complètement partir. Il faut savoir que ça peut durer jusque 14 minutes quand ils ne sont pas étourdis. Et la plupart du temps, il y a quand même des ratés, c'est 10 à 15% de ratés, par exemple pour le pistolet à tige perforante. Et Mauricio témoignait justement de voir, comme lui était au tri, de voir plusieurs impacts dans la tête des animaux, preuve que le pistolet à tige perforante n'avait pas marché la première fois, ni la deuxième, ni même la troisième.
Alors Brigitte Gauthier, c'est bien, là je pense qu'on a bien compris, et c'était le but de cette introduction. Vous dites que il y a 3 millions d'animaux qui sont brutalisés chaque jour dans les abattoirs en France, en tout cas c'est les chiffres qu'on peut trouver. Avant qu'on fasse une première pause et puis qu'on voit un peu plus quelles sont les actions de votre association et puis un peu la philosophie qui sous-tend votre association, le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises, en tout cas Didier Guillaume, donc ministre de l'Agriculture, annoncé encore dans un article du journal L'Opinion, c'était donc en août dernier, en tout cas c'est ce qu'on trouve sur votre site, nous allons annoncer de grandes mesures dans les semaines qui viennent avec le président de la République et le Premier ministre, mettre fin entre autres au broyage des poussins, éviter donc la castration à vif et d'autres mesures. Est-ce que vous avez bon espoir que le président Macron soit le président qui lutte contre la maltraitance animale?
En tout cas, jusqu'ici, il ne l'a pas montré, hein, puisque dans ses promesses de campagne, il y avait l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, et puis pour revenir sur les abattoirs, l'obligation de contrôle vidéo dans les abattoirs. Donc, pas du tout. Mais je voulais simplement juste revenir sur la question des abattoirs. On a montré la souffrance des animaux, et on vient d'en parler, de la souffrance des animaux à l'intérieur des abattoirs, qui effectivement est effroyable. Mais il ne faut pas oublier, et c'est aussi ce qui transparaît dans le témoignage de Mauricio, celle des êtres humains qui y travaillent. Qui sont guère mieux lotis. Mauricio témoigne de ses conditions de management à l'intérieur de cet abattoir où il n'est pas écouté, où on peut lui crier dessus. Il témoigne de tout un tas de procédés comme ça où à un moment il a pris un couteau, il allait pour ainsi dire planter son chef d'équipe. Donc il dit la souffrance qu'ils peuvent éprouver dans ces moments-là. Et puis les statistiques montrent, et ça c'est Geoffrey Le Guilcher qui l'a montré dans son livre aussi Steak Machine, en ressortant un vieux rapport, ils ont réussi à dénicher un rapport avec sa collègue d'envoyé spécial, qui dit que 90% des ouvriers d'abattoir souffrent de troubles musculosquelettiques, et un autre rapport dit que un quart, vous avez 4 fois plus de risque d'accident du travail dans un abattoir que dans n'importe quelle autre profession.
Il ajoute aussi que c'est une profession où il y a énormément de turnover, c'est-à-dire qu'on imagine évidemment que les gens tiennent pas longtemps. Alors juste sur les mesures gens... du gouvernement, donc vous n'avez pas beaucoup d'espoir que le gouvernement, que le président Macron soit le président qui lutte contre la maltraitance animale?
Non, très peu. Aujourd'hui, ce qu'on a surtout vu, c'est des cadeaux aux chasseurs. Le prix du permis de chasse qui est divisé par 2, par exemple, des périodes de chasse qui sont toujours pas respectées. Il a annoncé, Didier Guillaume, effectivement des grandes mesures, donc il a annoncé ça fin août pour dans quelques semaines, et puis il n'arrête pas de repousser le moment où il va nous faire les annonces de ces grandes mesures, toujours dit avec emphase et tout ça, comme jamais on aura vu. Et effectivement, dans les deux qu'il annonce, et c'est les deux seuls qu'on a effectivement détectés, en tout cas en ce qui concerne les animaux élevés pour l'alimentation, c'est la fin du broyage des poussins à vif. Donc ça, ils auraient pu le faire passer dans la loi alimentation de 2018, mais ils l'ont pas fait. Et là, ils l'annoncent parce que sa collègue allemande a dit que d'ici fin 2021, en Allemagne, en tout cas, ce serait interdit. Et il a dit, nous, en France aussi, on va faire pareil. Genre, on fait une annonce commune, ça va être fait, puisque en Allemagne, ils ont beaucoup avancé sur les alternatives. Et puis, la castration à vif, c'était dans le programme européen pour que la castration à vif soit terminée en Europe en 2018. Donc, ils nous annoncent ça pour 2020 ou 2021. On est en retard.
On a un peu de retard.
Voilà.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Quels sont au-delà de de vos campagnes de sensibilisation, les victoires que vous avez déjà remportées, vous et éventuellement d'autres associations amies. Vous allez nous expliquer pourquoi vous suggérez de devenir vegan, ce que ça veut dire. Et puis on essaiera de voir aussi quelle vision vous avez, en tout cas dans votre association, de l'animal et peut-être de la différence homme-animal.
Emmanuel Pella.
Maltraitance animale, importance et limite, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous, Brigitte Gauthière, qui est encore avec nous pour cette deuxième partie de mission, cofondatrice et porte-parole de l'association L214. Et donc j'ai profité de la pause pour retrouver le titre d'un livre que vous avez préfacé qui parle de votre association L214, Une voix pour les animaux, c'est aux éditions Artaud, livre de Jean-Baptiste Delamo. Autour du plateau aussi, François Fine, franciscain, et Benoît Calmel, ingénieur, tous les deux auteurs d'un ouvrage, La singularité humaine civilisée, notre rapport aux animaux, paru aux éditions cette fois Vie. On va leur donner la parole, mais on profite encore de votre présence pour vous laisser de la place. Parmi toutes les questions que j'avais envie de poser, on va commencer par celle-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont dans le monde rural, comme on dit, qui sont parfois des agriculteurs, des éleveurs. Parmi toutes vos interventions, en tout cas, on voit une vidéo, entre autres, je crois, de Yann Arthus Bertrand, qui laisse entendre que vous ne voulez pas jeter les éleveurs en pâture ou à la vindicte populaire. Vous reconnaissez que ce sont, on va dire, des braves gens, quoi, et qu'ils sont parfois comme pris au piège. Expliquez-nous ça.
Oui, on a beaucoup de, on est en relation avec des éleveurs aussi, et de toute façon, L214 c'est toujours inscrit sur un changement de système et pas une lapidation de personnes. Pour nous, notre société, ça fait longtemps effectivement qu'elle considère les animaux comme une source de nourriture. Nous, on propose de sortir de ce paradigme, de sortir de ce modèle. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui aujourd'hui en vivent sont responsables de ce modèle. On l'est de façon sociétale, nous tous ensemble. Et donc, il va falloir en sortir tous ensemble. Donc, effectivement, avec les éleveurs avec qui on discute, qui peuvent être des éleveurs d'élevage intensif ou des éleveurs qui sont plus dans le modèle paysan, on est en relation avec eux et on voit bien une sincérité aussi chez eux dans les choses qu'ils font. Et sur, notamment, les éleveurs qui sont en élevage intensif, ils nous disent, mais nous, on est complètement prêts à en sortir. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tenu par les coopératives agricoles, on est tenu par les banques et on a été trahi par nos syndicats qui poussent le modèle vers toujours plus d'industrialisation, etc. Alors, donc, ces gens sont malheureux. Le taux d'endettement moyen des éleveurs aujourd'hui en France est 187 000 euros. Ça monte à 430 000 euros pour les éleveurs de cochons en moyenne. C'est juste absolument atroce. Ces gens s'épuisent, se ruinent à ruiner d'autres vies finalement.
Vous rappelez aussi donc en 2017, en tout cas c'est dans la vidéo donc avec Yann Arthus Bertrand, ce photographe fort célèbre, qu'en 2017 un cinquième d'entre eux ne se sont pas versés de revenus, c'était pour les éleveurs, et que un tiers ont gagné 350 euros par mois. J'aimerais que vous veniez sur les victoires que remporte votre association et peut-être par extension d'autres associations. Vous faites circuler des pétitions, on y reviendra, il y a des pétitions là en l'occurrence à l'occasion des prochaines municipales. J'ai vu que vous aviez obtenu des victoires par exemple avec Panzani et Super U. Racontez-nous ces deux-là.
Effectivement, en fait, on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire changer notre société d'un coup pour l'amener sur une vision où les animaux seraient considérés plutôt comme des cohabitants de notre planète plutôt que comme de la nourriture à notre disposition. Donc, on essaye de faire reculer la cruauté. Et dans ce cadre, on a convaincu effectivement plus de 150 entreprises, nous et d'autres organisations, à renoncer aux œufs de poule élevés en cage de batterie. Pour Panzani, pour Super U, les négociations, nos informations vers ces entreprises, puisqu'on a une phase de discussion avec les entreprises avant d'avoir une campagne publique, nous ont mené dans une impasse. Et du coup, on a réussi à obtenir des images d'élevage sous contrat avec ces entreprises et à pouvoir les montrer. Et effectivement, dès qu'on a eu montré les images en ce qui concerne Tanzanie, en tout cas, ils se sont immédiatement engagés à renoncer aux œufs de poule élevés en cage d'ici 2025. En fait, d'ici 2025, normalement, l'élevage en cage aura disparu puisqu'on a convaincu non seulement les supermarchés, mais aussi les chaînes d'hôtellerie, restauration, les fabricants de produits comme les biscuits, etc., et aussi des producteurs dont le groupe Avril, où on a montré plusieurs images d'élevage sous contrat avec eux, plus ces images de vaches à hublot qui était aussi une des filiales de ce groupe qui fait un quart de la production en France. Et donc,
Vous parlez de toute la France, en fait. Vous laissez entendre que vous avez obtenu une victoire et sur ce sujet dans toute la France.
Ah oui. Auprès
des producteurs, des distributeurs, des marques.
Exactement, et ça représente aujourd'hui 2/3 des œufs utilisés. On continue cette campagne pour essayer de consolider effectivement cette fin des cages qu'on n'obtiendra du coup pas par voie réglementaire, puisque au niveau politique c'est plutôt bouché, mais justement par les producteurs, et c'est ce qu'on demande aussi par les municipales, puisque pour les municipales, l'engagement qu'on demande aux candidats pour ces élections, c'est de s'engager à exclure de leur commande publique les produits issus de l'élevage intensif.
Alors, venons-y.
Donc, notamment les œufs de poulpon de ce coin.
Alors venons-y avant de parler des véganes et que vous nous expliquiez ce que sont les véganes et pourquoi est-ce que vous incitez le grand public à s'orienter vers ce mode d'alimentation. Donc à l'occasion des prochaines municipales, vous avez donc lancé une campagne importante. Mm-hmm. Donnons notre voix aux animaux. Il y a une pétition qui circule. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous suggérez exactement aux électeurs que nous sommes?
Eh bien, on vous suggère en fait de contacter les candidats aux élections municipales de votre commune et de les inciter à prendre la question animale au sérieux, de leur montrer que pour vous, ça compte. On a fait faire un sondage, on voit que 7 Français sur 10 considèrent que ce serait important que, effectivement, dans les actions municipales, dans les actions des maires, il y ait cette partie pour les animaux, et que nous, de notre point de vue d'association défense des animaux, centrée sur les animaux destinés à la consommation alimentaire aujourd'hui, on a axé sur 2 pans. Effectivement, le recul de la cruauté, donc dans la commande publique, exclure les produits les plus cruels, que ce soit par les conditions d'élevage, donc l'élevage intensif, ou par les conditions de mise à mort. Et là, on demande que soient exclus de la commande publique les produits issus d'abattage sans étourdissement ou d'étourdissement au dioxyde de carbone pour les cochons, ou de la suspension des oiseaux par les pattes avant même qu'ils soient inconscients. Et puis la végétalisation de l'alimentation, c'est-à-dire de réduire cette consommation de viande, parce qu'on ne peut pas espérer améliorer les conditions de vie des animaux, en tout cas les rendre moins cruels, sans avoir diminué drastiquement notre consommation. Et puis ça rejoint les considérations environnementales, où on sait que, par exemple, sur la question du climat, il faut avoir réduit sa consommation de viande, et des études montrent qu'il faudrait réduire de 90% notre consommation de viande et de 60% notre consommation de produits laitiers. Et il faut y aller rapidement si on veut espérer améliorer les choses relativement rapidement en ce qui concerne les questions climatiques aussi. Donc on a un enjeu éthique, un enjeu climatique, un enjeu social, comme on l'a vu avec
Brigitte Gauthier. Juste, excusez-moi,
c'est
très intéressant, il faut juste que j'arrive à poser mes questions.
Oui.
Si vous permettez, j'entends presque donc les questions que peuvent se poser les auditeurs, on va y venir, hein, sur la manière dont vous considérez les animaux, peut-être que ça peut interroger certains, mais juste j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est qu'être végane. Donc les chiffres à propos de la consommation de viande, vous avez dit donc cette urgence, vous rappelez donc qu'entre 1950 et 2000, la production mondiale de viande s'est multipliée par 5, les Français semble-t-il sont vraiment en tête sur le sujet, 89 kilos de viande par an, c'est 2 fois plus ou moins que leurs grands-parents. Être végane, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jamais manger de viande ou n'importe quelle alimentation d'origine animale, c'est bien ça?
Ouais, c'est essayer de se nourrir en faisant le moins de mal possible autour de soi. Donc effectivement, ça concerne essentiellement les animaux non humains, c'est-à-dire le fait de refuser tout produit d'origine animale, considérant que ça a pu faire souffrir ou faire tuer les animaux qu'on mange. Donc c'est toute la chair des animaux, viande, poisson, et puis les produits laitiers, les œufs notamment, ceux qu'on trouve dans le commerce. Ouais.
Voilà, donc ça c'est l'horizon vegan. Alors vous avez utilisé une expression animaux non humains. Sur votre site internet, quand on cherche bien, on trouve par exemple chaque poisson a une personnalité propre. Je rappelais que le code civil, donc aujourd'hui en France, qualifie un petit peu plus donc ce que sont les animaux. Je disais ça dans le teasing de l'émission, c'est en février 2015, donc le code civil a précisé que les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité. Mais à vous entendre, en fait, homme, animal, l'homme serait un animal comme les autres. Chat, cochon, homme, même nature, même combat, comment vous expliciteriez cette expression des animaux non humains?
En fait, oui, biologiquement, nous sommes des animaux. Hein. Voilà, on est des mammifères. Biologiquement, on a beaucoup de points communs avec les autres animaux. Mais en fait, effectivement, nous sommes différents. Nous, on ne dit pas tous les animaux sont pareils, animaux humains compris. Non, les animaux humains sont différents. Nous autres, êtres humains, nous sommes différents, mais les vaches sont aussi différentes des poules, etc., etc. Il y a des différences finalement non pas de nature, mais de degré au niveau biologique. Et puis après, il y a des intelligences qui se développent de façon différente, etc. Mais ces différences, en fait, elles ne justifient pas le traitement très différent qu'on fait vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire que nous, on est sur des questions de considération morale, de balance des intérêts. C'est-à-dire que notre intérêt à manger de la viande, qui aujourd'hui n'est pas un besoin, on n'est pas en situation de survie, mais est simplement un désir, devrait peser moins lourd dans la balance que la vie et le souhait de ne pas souffrir des animaux. Et vous avez rappelé, effectivement, les animaux, ils ont leur personnalité propre, ils ont leurs relations sociales. En 2012, la déclaration de Cambridge de neuroscientifiques montre que ce sont des êtres conscients pour la majorité de ceux que nous mangeons aujourd'hui. Donc voilà, ça devrait nous éclairer. Et en fait, plus on avance en éthologie, en sciences cognitives, plus on devrait changer notre façon de voir les animaux et nos pratiques à leur égard. Or, même avec toutes les découvertes scientifiques qui sont faites aujourd'hui, on ne change absolument pas un iota à notre façon de les traiter. Aujourd'hui, vous avez encore 80% des animaux qui sont élevés en élevage intensif sans aucun accès à l'extérieur, donc bien loin de l'article L214.1 du Code rural qui dit qu'on doit prendre en compte les impératifs biologiques de leur espèce.
Benoît Calmel, donc vous êtes ingénieur, vous êtes co-auteur donc de ce livre, La singularité humaine civilisée, notre rapport aux animaux, paru aux éditions Vie. Quand vous entendez donc chaque poisson a une personnalité propre, où est-ce que vous rejoignez en fait cette vision du monde animal, où est-ce que les chrétiens rejoignent, et en même temps où est-ce qu'on peut diverger, c'est-à-dire personnalité, on entend personne. A priori, pour nous, chrétiens, personne, enfin en tout cas, on l'assimile davantage à l'être humain plutôt qu'à un poisson ou un autre animal. Alors où est-ce qu'on pourrait se rejoindre ou où est-ce qu'on divergerait sur ce sujet ?
Ah ben, déjà, on se rejoint sur l'aspect scientifique, hein, c'est-à-dire que je rejoins tout à fait Brigitte Gauthier sur ce point, hein, les découvertes scientifiques de plus en plus nombreuses depuis ces dernières décennies nous montrent à quel point des animaux, alors pour des animaux plus familiers comme une vache par exemple, ça fait longtemps que les éleveurs en particulier savent qu'elles ont toute une personnalité, qu'elles sont en fait beaucoup plus proches de nous qu'une carotte par exemple, mais pour les poissons par exemple, on s'en est ému depuis moins longtemps, et maintenant on sait effectivement parfaitement que chaque poisson a une intériorité et il faut en tenir compte.
Une intériorité, ça veut dire quoi? Une sensibilité, c'est ça?
C'est-à-dire qu'ils ont une certaine conscience du monde qui les entoure, ils ont une certaine conscience de ce qui leur arrive, ils ont une capacité à souffrir, une capacité à éprouver des émotions comme la peur, comme ils sont capables de reconnaître certains de leurs congénères. Donc il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'actuellement il y a une dissociation complète entre ce que nous savons d'un point de vue scientifique et la manière dont on traite les animaux. Nous savons parfaitement, et ça a été confirmé par la science, que les animaux ce sont des êtres sensibles, conscients, et nous les traitons comme des objets. Enfin en tout cas nous, tout ce qui est l'agroalimentaire, les traite comme si c'était des objets.
Est-ce qu'il y a une différence de nature, malgré tout, sans vouloir se mettre au-dessus du règne animal, mais j'avais cru comprendre qu'en philosophie, on distinguait l'âme végétale, l'âme animale et l'âme humaine, et il y a quand même différentes...
Alors c'était l'objet de notre ouvrage avec le père François-Régis Fine. Effectivement, alors d'abord, d'un point de vue philosophique, au cours des siècles, ça a été un débat entre plusieurs approches philosophiques, on va dire. Et pour faire court, il y avait une partie des philosophes qui considéraient qu'il y avait une différence de nature, et effectivement, alors que d'autres considéraient qu'il y avait qu'une différence de degré. Actuellement, les conclusions d'un point de vue scientifique montrent que quand même, les animaux les plus intelligents sont quand même très très proches des êtres humains, et tout ce qui constituerait le propre de l'homme. On a toujours essayé de mettre une différence totale entre l'homme et l'animal en disant, il y a des propres de l'homme. Finalement, tout ça a toujours été remis en cause. Donc ça, c'est d'un point de vue de l'être, de ce que nous sommes. Après, c'est vrai que nous, chrétiens, nous pensons que l'homme a une place particulière au sein de la création, mais cette place, c'est une place de responsabilité. C'est-à-dire que ça nous confère non pas des droits à exploiter, à massacrer, mais ça nous confère une responsabilité. Nous devons être au service de la création, et donc nous devons respecter les animaux, Voilà, c'est au moins le minimum. Peut-être, sans aller à les aimer autant que des êtres humains, évidemment, non. Mais les respecter, ne pas les faire souffrir, ne pas les tuer sans nécessité.
Pour finir, Brigitte Gauthier, avant que vous nous quittiez, à l'occasion de cette deuxième pause musicale, le frère François Fine, avec, à qui on va finir par donner la parole, qu'il se rassure, me disait « c'est dommage de commencer cette émission par des choses aussi négatives, tout part en fait de tout combat, à l'entendre quelque part, part d'abord d'un émerveillement, est-ce le cas, vous et l'association L214, comment est-ce que vous voyez la création, est-ce que d'abord tout ce combat est justifié par un émerveillement très profond et un désir de communion, comme on pourrait dire ?
Effectivement, ce combat, il part d'un désir de justice, de reconnaître que les animaux sont, comme nous, finalement, des êtres exceptionnels, qui comptent pour eux-mêmes, qui ont des relations entre eux-mêmes. Et on le voit d'autant plus qu'il y a de plus en plus de refuges qui ouvrent leurs portes. Et on voit à quel point ces animaux, justement, sont des individus, ont leur propre personnalité, leur petit caractère. Et effectivement, ça part d'un émerveillement, mais la situation est tellement catastrophique. On tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs, pendant même qu'on parle, là, c'est en train de se faire à plein régime. On est à 2400 animaux à la minute dans les abattoirs en France actuellement. Donc, oui, effectivement, ça part d'un émerveillement, d'un souhait de bienveillance, d'un souhait d'une société en paix avec les animaux. Mais malheureusement, ça passe par une prise de conscience qui ne peut pas se faire aujourd'hui parce que on a un lobby de la viande qui est extrêmement puissant et qui cherche absolument à nous faire oublier le lien entre la viande et les animaux. C'est-à-dire que ce massacre, il se passe à l'abri des regards. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de souhaits d'essayer de limiter le nombre d'images qui peuvent sortir des élevages et des abattoirs de façon à ce qu'on ne montre pas la réalité. Et il y a un véritable enjeu aujourd'hui à protéger les lanceurs d'alerte de façon justement à ce que cette prise de conscience puisse se faire et qu'on puisse avancer concrètement vers la fin d'une grande souffrance, d'une grande cruauté qu'on a à l'égard des animaux aujourd'hui.
Eh ben merci beaucoup Brigitte Gauthier. Je rappelle donc que vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214. On va faire une deuxième pause musicale. On va retrouver nos autres invités pour continuer à parler de ce sujet de la maltraitance. On se réinterrogera peut-être sur cette notion de rupture ou de degré homme-animal. En tout cas, on précisera. Et puis, on fera écho à ce qu'on peut lire, entre autres, dans l'encyclique Laudato Si du pape François et ce qui nourrit la pensée franciscaine sur le sujet depuis fort longtemps.
Sur le Causse, 106.5.
Emmanuel Pella.
Maltraitance animale, importance et limites, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Autour du plateau, il y avait donc pendant un certain temps Brigitte Gauthier, cofondatrice et porte-parole de l'association L214, pour ceux qui nous rejoindraient. Et il y a toujours François Fine et Benoît Calmel, le premier étant franciscain, le deuxième ingénieur. Non pas que franciscain, ça soit un métier, mais c'est pour, voilà, ce sont vos, entre guillemets, vos qualités dans une émission comme ça. Et co-auteurs tous deux d'un ouvrage, La singularité humaine civilisée, notre rapport aux animaux, paru aux éditions Vie. François Fine, je vous repose la question pour qu'on prenne un tout petit peu plus le temps, peut-être de la préciser. Il y a eu des expressions quand même, moi, qui m'ont fait tiquer. Les animaux non humains, ils sont comme nous, ils ont une personnalité. Est-ce qu'on peut rejoindre, en fait, une telle pensée ? N'y a-t-il pas là quelque chose d'un peu saugrenu ? François Fine, je vous repose, ou alors Benoît Calmel, allez-y, Benoît Calmel, vous répondez, et puis je reposerai la question à François Fine.
En fait, c'est pas saugrenu, c'est vrai que c'est un vocabulaire que on n'a pas forcément l'habitude de. Bon, c'est une question de vocabulaire en fait, hein, mais c'est vrai que on a tous appris que nous faisons partie du règne animal, hein, l'espèce humaine fait partie du règne animal. Il y a eu plusieurs espèces humaines même dans le passé. C'est simplement la réalité biologique, hein. Alors après, nous pouvons développer aussi une réalité qui soit plus philosophique ou théologique, et là, nous serons peut-être un peu différents. Mais en tout cas, même cette approche théologique va dans le sens de « il faut bien traiter les animaux ».
Donc il n'y a pas de différence de nature entre un cochon et un homme, en fait. C'est...
Alors ça dépend.
C'est vraiment ce que dit la pensée chrétienne.
Non, alors la pensée chrétienne va dire... Alors je pense que la pensée chrétienne ne va pas se prononcer forcément sur l'aspect scientifique, puisque l'aspect scientifique, en fait, c'est nous essayons toujours d'accorder...
Là, la question qui est posée, c'est pas l'aspect scientifique, oui, d'accord.
Voilà,
oui.
Voilà, nous essayons toujours d'accorder la foi et la raison. Donc d'un point de vue raison, d'un point de vue scientifique, eh bien, l'espèce humaine fait partie du règne animal. Voilà. Et d'un point de vue, ensuite, de la révélation, au début de la Genèse, c'est vrai que, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont dites sur la création de l'homme, et nous voyons que nous avons un rôle particulier à jouer au sein de la création.
Mais plus que ça, Genèse, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu.
Exactement.
Ça n'est pas précisé pour les autres animaux.
Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu ? La révélation, une des révélations principales, c'est de dire que Dieu est amour, qu'il aime sa création et qu'il aime chacune de ses créatures. Et nous sommes à l'image de Dieu, nous devons respecter et traiter les créatures, les autres créatures, les animaux, comme Dieu le ferait. Donc avec amour, avec respect, et tout ce que nous voyons, tout ce qui a été décrit précédemment dans l'élevage industriel, dans les abattoirs, c'est indigne de l'homme.
François Fine, donc je vous repose ma question, est-ce que vous pouvez compléter le propos de Benoît Calmel ? Donc quand dans le récit de la Genèse, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, est-ce à dire que l'homme est entre guillemets différent des autres animaux, qu'il y a une différence de nature ou de degré, puisque c'est comme ça, semble-t-il, parfois que c'était exprimé.
Je ne crois pas que ce soit le meilleur de ce que la tradition chrétienne peut dire, parce qu'on entre dans des considérations un peu philosophiques qui peuvent poser question. Je crois que dans le passé, les philosophes ont donné déjà presque trop de réponses à cette question de différence entre l'homme et l'animal. Toute une série de différences singulières et considérées comme cruciales ont été invoquées. L'homme est seul doué de raison. Il possède une culture et un langage. Et même Marie Balmary, la psychologue, fait remarquer que l'homme est le seul à parler en première personne. Donc pas seulement une question de langage, mais pas une question de parler en première personne.
Voilà, on dit aussi que les animaux n'enterrent pas leur propre congénère, qu'ils n'ont pas tout à fait aussi la même conscience d'eux-mêmes.
Oui. Oui. Il y a aussi... Rousseau dit... À l'humanité, la liberté et la perfectibilité, l'animal, lui, ne peut que suivre le programme de sa nature.
Donc, ça plaide pour une différence de nature, quand même, François Fine, non ?
Alors, Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de fin au motif que trouve l'homme de se juger unique lorsqu'il se compare aux autres espèces. Mais il existe au moins deux raisons pour se défier de cette focalisation sur l'unicité de l'être humain.
Je vous arrête, parce que là, vous lisez votre livre, c'est pas possible, vous me répondez, François Fine. Oui. Je vous repose ma question. Voilà, du coup, j'ai perdu ma question. Donc, on va passer à autre chose. Je suis désolé, mais on peut pas lire, en fait, pendant une émission de radio. Dernière question. On dit qu'aujourd'hui, que la pensée chrétienne, c'est une communauté d'origine, d'alliance et de destin avec les animaux. En tout cas, c'est ce qui est dit et rappelé dans l'encyclique Laudato aussi. Benoît Calmel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Communauté d'origine, d'alliance et de destin, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors d'origine, on voit très bien dans les deux premiers chapitres de la Genèse à quel point la création de l'homme et de l'animal est une proximité, hein, clairement. Ensuite, de destin, c'est-à-dire que...
D'alliance, pour commencer.
D'alliance, oui, il y a une alliance qui a été faite entre les hommes et les animaux. Comme le disait François-Régis Fine, on peut dire que les animaux, finalement, nous sont donnés comme des compagnons. Ou on peut même dire, comme saint François d'Assise, que ce sont nos frères dans la création. Donc ça, c'est clairement une alliance. Et ensuite, de destin, c'est-à-dire que le mal qui est dans la création, hein, qu'on peut constater malheureusement, qui nous atteint dans notre chair, dans notre esprit, eh bien, ça atteint également les animaux. Et la rédemption qui est apportée par le Christ, eh bien, elle est aussi pour les animaux. Hein. Toute la création va être sauvée. Et donc, voilà.
Mais les animaux n'ont pas besoin d'être sauvés.
Ils ont besoin d'être sauvés. Alors, ça peut être un sens un peu différent de l'être humain, mais en tout cas.
Un animal ne pêche pas.
Oui, ben justement.
Il ne fait pas le mal. En conscience, en tout cas, puisqu'il n'a pas le même niveau de conscience.
Exactement, mais il est quand même soumis aux conséquences de ce péché, hein, puisque nous pensons que tout le mal vient du péché. Et la souffrance que les animaux ressentent, que ce soit dans la nature pour les animaux sauvages ou pour les animaux qui sont sous notre domination, toute cette souffrance, eh bien, elle est la conséquence également du péché.
François Fine, est-ce que les chrétiens portent une responsabilité particulière? Alors vous me direz aujourd'hui, ça devient presque une règle que de désigner les chrétiens comme coupables. Mais est-ce qu'une mauvaise interprétation justement du livre de la Genèse et de la domination que l'homme était censé avoir sur le monde animal, juste domination, a accouché de cette rupture justement qu'il y a dans l'inconscient collectif entre l'homme et l'animal?
Oui, il y a cette notion de dominer nous a empoisonné. On a dit que l'homme, il avait effectivement bien respecté cette consigne de domination, hein, avec un peu trop de zèle. Mais en réalité, si vous prenez le Nouveau Testament, alors la domination, c'est une question de service. C'est un peu une ligne de force de l'Évangile que dire que le supérieur doit aider l'inférieur. Et si l'un est plus intelligent, et bien il doit aller celui qui est moins intelligent et tout ça. C'est fondamental, n'est-ce pas,
Donc il y a eu une mauvaise interprétation de ce récit de la Genèse. En tout cas, c'est ce qu'on entend.
Oui, et peut-être les chrétiens ont été les premiers à dominer sous forme d'un pouvoir. Hein.
J'aimerais qu'on finisse l'émission en évoquant quelques fioretti de la vie de saint François d'Assise, puisque j'ai compris, entre autres, que dans l'encyclique Laudato Si, une théologie franciscaine de la création qui a été mise à l'honneur. J'ai souvenir d'un invité qui disait qu'aujourd'hui, le pape François avait comme entériné le magistère de l'Église, qui laisse entendre qu'il y a différentes manières de rencontrer Dieu. Traditionnellement, on disait donc par la prière, la vie sacramentelle. Après, c'est dont on rencontre Dieu dans les autres, particulièrement dans leur visage, mais aussi donc dans la création, et que ça, l'encyclique date aussi, le redisait avec force. Saint François d'Assise avait une intimité particulière avec les animaux, qui dit peut-être la communion qui serait possible entre l'homme et le monde animal. Est-ce que vous voulez nous rappeler, François Fine, quelques-uns de ces fioretti de sa vie, celui que vous aimez et qui vous marque, et qui dit la communion à laquelle, la communion première quelque part, à laquelle nous serions aujourd'hui appelés.
Bon, il y a deux, je voudrais dire simplement deux fioritis. Le premier, le plus connu, c'est celui sur la prédication aux oiseaux. Et Saint François était en itinérance avec son, ses compagnons. Il est toujours en itinérance sur les routes et il voit que il y a un rassemblement de d'oiseaux qui est pas loin de, du chemin. Il laisse ses compagnons et dit, il va se, vers ce groupe d'oiseaux. Et contrairement à ce qu'il pensait, ces oiseaux ne s'en vont pas. Alors il leur fait un, il leur dit, écoutez bien, je vais vous faire un petit sermon. Et assez extraordinaire, les oiseaux sont là, ils tirent sur leur cou pour bien écouter, tout ça. Il y en a un qui était sur les arbres, qui descend pour écouter lui aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il leur dit dans cette... Eh bien, il leur dit, justement, louez le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour vous. Regardez, il vous donne... le vêtement, il vous donne la nourriture, il vous donne de l'air pour... là, voilà, eh bien, louez le Seigneur. Et ça, on peut, on pourrait dire que c'est une marque un peu franciscaine, cette, cette louange du Créateur, hein, qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible, le psaume de... du livre de Daniel, hein, le soleil et la lune, les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, allaient tous louer le Seigneur. Hein. Et si on leur demande de louer le Seigneur, c'est bien parce qu'ils en sont capables.
Eh ben, on va rester sur ce Fioretti. On aurait pu en citer d'autres, et j'en cite un autre rapidement. Sur le lac de Rieti, on lui offrit un beau poisson encore vivant. Il l'appela frère, comme il avait l'habitude de le faire. Il le remit dans l'eau près de la barque, mais le poisson continua de frétiller joyeusement dans l'eau à la vue de François, comme si s'il était sous le charme de son amour, et ne s'éloigna du bateau que quand il eut reçu la permission et la bénédiction de Saint François. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. Je rappelle le titre, donc, de quelques-uns de vos livres, L214, Une voix pour les animaux, paru aux éditions Artaud, et votre livre avec Benoît Calmel, François Fine, La singularité humaine, civiliser notre rapport aux animaux, paru aux éditions Vie. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.